se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir à Bamako, au Mali. Merci au public venu très nombreux pour participer à cette émission enregistrée vendredi dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences économiques et de gestion. D'ailleurs, je tiens dès maintenant, et on peut l'applaudir, je tiens dès maintenant à remercier le doyen de la faculté. Il nous a ouvert les portes, il nous permet de réaliser cette émission. Donc merci à lui. Alors ce matin, avec les étudiants, nous allons dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Vous le savez, pas une semaine ne passe sans que le pays soit endeuillé par des attaques djihadistes visant soit des militaires, soit des civils. On va essayer de voir ensemble ce matin comment le pays peut enrayer cette menace terroriste. Vous allez nous parler évidemment de l'opération Barkhane, l'opération française. On va s'intéresser à l'armée malienne, à la force du G5 Sahel qui, on le voit bien, peine à monter en puissance. On va s'interroger, est-ce que finalement la solution elle est forcément militaire ou faut-il préconiser le dialogue avec les djihadistes? Il y a tout juste 2 semaines, sur l'antenne de RFI, le président Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé l'existence de contacts avec 2 chefs djihadistes, Iyadat Gali et Amadou Koufa. Nous verrons évidemment comment le public réagit à cette nouvelle approche. Et puisque nous parlons sécurité, évidemment, la question de Kidal sera évoquée, le retour de l'armée reconstituée dans cette ville qui, pendant 6 ans, échappait au contrôle de l'État. Alors, pour dialoguer avec le public très nombreux dans cet amphithéâtre, 2 invités, merci de les accueillir. Boubacar Ba, bonjour.
Bonjour.
Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À vos côtés, Choguel Maïga, bonjour.
Bonjour.
Président du mouvement patriotique pour le renouveau, vous avez vu le nombre d'étudiants présents ce matin dans cet amphithéâtre. Messieurs, tous souhaitent prendre la parole et le micro RFI pour dialoguer avec vous. Je souhaite un débat franc, direct, sans tabou, mais respectueux, bien évidemment. Le premier étudiant, je vous le présente, il est là, au premier rang. Il s'appelle Alpha. Bonjour.
Bonjour.
Alpha, vous avez 22 ans.
Oui.
Je disais à l'instant, en préambule, qu'on allait parler de la force Barkhane, les militaires français. Cette présence, elle a été critiquée ces derniers mois, elle l'a encore un peu aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander le départ de l'opération Barkhane. Et vous souhaitiez nous interpeller sur ce point précis?
Bon, au fait, tout d'abord, suite à l'appel du président malien Diankounda Traoré à l'époque, président par intérim, le président français à l'époque, François Hollande, a déployé en urgence les forces, l'opération Serval en amont. Donc, il est devenu en août 2014 l'opération Barkhane. Et ils avaient 2 objectifs centraux. Le premier, c'est d'arrêter maintenant la progression des groupes terroristes. Et le second, c'est d'aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale. Donc, aujourd'hui, face maintenant à cette situation, on voit que maintenant ces 2 grands objectifs ne sont pas du tout respectés, ne sont pas du tout atteints.
Et aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui s'interrogent sur la présence française?
Bon, moi, oui, je m'interroge sur la présence française ici. Parce que leur présence ne nous a pas apporté beaucoup de choses à apprécier.
Bah déjà, le fait d'arrêter les djihadistes en 2013, c'est considérable.
Bon, pas du tout à l'échelle, parce que déjà, les objectifs qui se sont fixés jusqu'à maintenant ne sont pas atteints. Bon, on voit maintenant que la situation ne fait que prendre d'ampleur du jour à un autre jour. L'insécurité au Mali est devenue à son niveau paroxysme, parce qu'on voit beaucoup de localités en 2013 étaient sous contrôle gouvernemental, mais aujourd'hui ne le sont plus.
Oui. Que demandez-vous aujourd'hui?
Bon, on demande le départ de ces troupes, puisqu'on ne voit pas ce qu'ils nous apportent. Au contraire, ils nous exploitent. Puisqu'on sait qu'aucun pays ne va pas accepter de rester dans un autre pays sans qu'ils ne visent des intérêts. C'est qu'ils sont là pour exploiter leurs intérêts ici.
Donc pour vous, il y a forcément des intérêts derrière?
Bien sûr.
On va voir ce qu'en pense votre voisin et on fait réagir évidemment les invités. Bakary, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez 22 ans, Bakary.
Oui.
Vous partagez le point de vue d'Alpha à côté de vous?
Contrairement à mon camarade, moi je suis d'accord pour la présence des forces étrangères au Mali. Je pense même que c'est une bonne idée d'envoyer plus d'autres soldats.
Les effectifs de Barkhane augmentent. Hein. Oui. Il va y avoir 600 soldats supplémentaires dans les prochaines semaines.
220 de plus.
600. 220, c'était ce qui était annoncé à Pau par le président Macron. Et finalement, ce seront 600 hommes supplémentaires.
Oui. Tout d'abord, je pense que nous avons un pays très vaste. Nous avons une superficie de 1 240 000 km². Donc, il n'est pas possible pour nous. Et puis nous avons des zones très difficiles à contrôler. Donc, je pense vraiment avec la présence des forces étrangères, nous pouvons gagner la première bataille, qui est la bataille des renseignements, d'informations. Parce que nous sommes un pays, il faut le dire, nous n'avons pas assez de moyens financiers, techniques et humains pour faire face à cette guerre.
Alors, on va faire réagir les invités qui vous écoutent. Monsieur le ministre, sur ce sentiment anti-Barkhane, comment l'avez-vous vécu ces derniers mois ?
Bon, je pense que la jeunesse peut se tromper, mais nous, en tant qu'adultes, nous ne pouvons pas nous tromper. D'abord, c'est le positionnement de Barkhane. Barkhane n'est pas partout. Barkhane fait partie d'un ensemble qui va du Tchad au Mali. Donc, c'est extrêmement dans le nord. Barkhane est en complémentarité avec EUTM, qui est l'Europe organisée pour appuyer le Mali dans la formation de ses troupes afin qu'elles soient en capacité de préserver le pays. Donc, c'est nous qui avons fait appel à la communauté internationale pour nous appuyer dans ce sens.
Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a une vraie frustration. On le constate dans ces témoignages, quand on fait un micro-trottoir et qu'on interroge les Maliens dans la rue.
Oui, on est frustré quand on ne comprend pas la fonction des troupes étrangères. Il y a celles qui sont destinées à la formation et celles qui sont destinées à la guerre, comme Barkhane, mais dans une aire géographique beaucoup plus élevée. C'est ça qu'il faudrait considérer. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de EUTM. Allez-y à Kouloukoro, allez voir combien de jeunes ont été formés par l'Europe en complémentarité avec ce que fait Barkhane.
Il y aura des questions tout à l'heure, monsieur le ministre, sur la formation des militaires maliens. Je voudrais entendre Choguel Maïga, justement, sur ce sentiment anti-Barkhane. Comment l'avez-vous vécu également ces derniers mois ?
Vous savez, les sentiments anti-Barkhane, anti-français, anti-communauté internationale, se nourrit principalement de l'absence de résultats. Vous savez, une politique n'est valable qu'au résultat. Lorsque l'opération Serval est intervenue en 2013, à la demande du gouvernement malien, c'était pour atteindre des objectifs qui ont été officiellement déclarés par le président français d'alors que le jeune vient de rappeler. Détruire le terrorisme, c'est les termes de Hollande, aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire. Les deux objectifs n'ont pas été atteints en 2016. Et Serval s'est mué en Barkhane à l'insu des Maliens, parce qu'on ne sait pas à quel moment la décision a été prise. On sait que Serval est intervenu à la demande des Maliens, oui. Mais Barkhane est venu comment ? Et c'est le manque de résultats qui fait qu'aujourd'hui, les Maliens se sentent frustrés. Et je termine par autre chose. C'est que pourquoi on est à cette situation ? Parce que précisément, il y a eu un sentiment chez les Maliens qui a un double jeu, un double langage. Parce que c'est l'empêchement de l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire qui a créé un sanctuaire à partir duquel les terroristes sont allés se préparer pendant 2 ou 3 ans pour après attaquer tout le reste du pays.
Choguel Maïga, je voudrais qu'on écoute le ministre justement. Un double langage de la part des autorités maliennes ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu un double langage. Expliquer la guerre, expliquer les forces en présence, ça a été expliqué. On a dit nous sommes en phase de reconstruction de l'armée après la débâcle de 2012. Et former une armée, ce n'est pas une question de jours, c'est une question d'années. Donc, l'appel à la communauté internationale a été très clair. Et dans ce sens, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'y a pas eu d'informations claires à cet effet.
Alors, vous parliez de l'armée. Justement, Moussa est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Moussa, quel âge avez-vous ?
22 ans.
22 ans. Vous souhaitiez nous interpeller, justement, sur les FAMA ?
Nous sommes dans une situation précaire. Nous sommes face aux terroristes. C'est très difficile de lutter contre le terrorisme. La question sécuritaire est une question très délicate. L'information est le principal actif. Bon, donc, quand on regarde, on sait que toujours les FAMA tombent dans l'embuscade. Bon, donc, on ne dispose pas de l'information. Il y a une asymétrie d'information. C'est ce qu'il faut s'approprier.
Vous avez l'impression que votre armée, malgré les moyens déployés, les financements reçus par l'Union européenne et par les partenaires occidentaux, que votre armée, elle est toujours mal équipée,
oui,
mal fermée.
Évidemment, avant même de parler des forces étrangères, l'État malien alloue 20% du PIB à la sécurité. Bon, donc, de mon point de vue, ce n'est pas du tout insuffisant, mais ce qu'il faut
voir... Mais vous diriez que c'est de l'argent jeté par les fenêtres ?
Bon, je ne dirais pas ainsi, mais il faut voir l'efficacité de l'allocation de ces... Est-ce qu'il y a le résultat, comme l'a rappelé M. Choquel?
Alors, parce justement...
Que je les rejoins, parce qu'il faut voir... Une question est de prévoir, mais l'autre est de savoir si c'est réalisé.
Choquel Maïga, 20% du budget de l'État est alloué à l'armée. Ça vous inspire quel commentaire?
Ces dernières années, c'est d'ailleurs 25%.
25 même.
Alors, ce que je voudrais dire, vous savez, l'armée... C'est un outil de travail dans les mains du pouvoir politique. L'armée d'un pays est toujours ce que veulent en faire les dirigeants politiques. Tout ce qu'on reproche à l'armée, ce n'est pas aux militaires qu'il faut le reprocher, c'est aux politiques. Je m'explique. L'armée malienne aujourd'hui a 5 problèmes principaux qui font qu'il n'arrive pas à faire face.
Alors, le temps passe très vite. Et là, d'abord, les deux problèmes principaux, selon vous.
Le principal, c'est un problème de commandement. Lorsque vous changez de ministre de la Défense, de chef d'état-major général des armées, 5 à 6 fois en 5 ans, vous ne pouvez pas avoir une armée bien commandée. Vous avez un problème de financement. Lorsque on fait voter 1230 milliards pour équiper une armée en 5 ans, au bout du compte, on n'a aucun équipement militaire qui peut faire face, c'est-à-dire le vecteur aérien. L'armée n'est pas commandée. On a des hélicoptères, des avions achetés à grands frais qui sont cloués au sol.
Alors,
vous avez un problème de coordination entre les unités de l'armée. Quand les camps sont attaqués, souvent ça dure 7 à 8 heures de temps. Il n'y a pas de secours. Vous avez un problème de renseignement. Toutes les attaques sont préparées pendant des jours. Il n'y a pas de renseignement, les camps sont attaqués. Et enfin... une question de coordination entre les unités maliennes et les forces étrangères. Voilà le problème. Et c'est tous des problèmes politiques.
Monsieur le ministre, quand on voit qu'il y a des avions qui ont été achetés extrêmement chers pour défendre le Mali, des avions qui sont censés pouvoir voler de nuit et qui n'ont jamais pu décoller, ça laisse béat tout de même.
Vous savez, dans toutes les transactions commerciales, il y a des aigres fins. Si certains ont été... cloués au sol. Aujourd'hui, les aéronefs sont opérationnels. Avant-hier, c'était à Somadougou, où on a neutralisé plusieurs dizaines de djihadistes et d'autres gens. Donc, ne restons pas dans les déficits, mais essayons de voir le progrès que fait cette armée-là avec les moyens dont on dispose. Regardez tous les blindés qui sont sur le terrain et qui sont en train de se mouvoir. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait... revenir sur des choses qui sont passées dans 10 mois.
Mais 5 ministres de la Défense en 6 ans.
C'est normal. Quand il y a changement de gouvernement, on change les gens de poste. On a changé de premier ministre, ça n'a choqué personne. Donc je pense que si les hommes ne sont pas en capacité, ben il faut les remplacer.
Il y a Maïmouna qui souhaite dialoguer avec vous, monsieur le ministre et monsieur Choquel Maïga. Bonjour Maïmouna.
Bonjour à vous. Donc, je me prénomme Maïmouna, je suis étudiante à la FSEC. Donc, moi, je vais juste intervenir au niveau de la question polémique selon laquelle la présence des forces armées étrangères, oui ou non. Mais nous devons d'abord savoir que avant la présence des forces étrangères, nous étions dans une situation catastrophique. Ça, c'est un point. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est les avantages et les inconvénients de la présence des forces étrangères dans notre pays. Les avantages, normalement, qui ne sont pas peut-être respectés, selon moi. Donc, nous devons plutôt nous dire que les forces étrangères doivent être là pour un but précis, notamment avec la formation de nos pharmas, les stratégies. Parce que nous ne pouvons aller dans un champ de bataille sans au préalable avoir une expérience ou une formation.
Comment vous vivez le fait qu'il y ait, puisque vous parlez de présence étrangère, Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, cette superposition de forces, comment vous avez l'impression qu'elle est utile, qu'elle fonctionne, il y a un vrai problème de coordination?
Moi je me dis qu'il y a sûrement un problème. Voilà. Voilà pourquoi je parlais des avantages et des inconvénients. Parce que si l'armée, si déjà les populations se mettent et se lèvent un matin et se mettent à dire bon non, on ne veut pas, ils n'ont qu'à partir, c'est parce qu'il y a un problème.
Vous seriez prête, vous, à manifester pour dire il faut que les forces
étrangères
partent?
Bien sûr. En fait, moi, je ne prends pas parti des deux. Au fait, moi, je vois l'avantage et l'inconvénient. Mais sûrement, il faut dire que les forces étrangères doivent être là pour un but précis, mais qui ne respectent pas.
Alors, passez le micro à Mariam. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Vous avez une question, vous avez un commentaire, on vous écoute.
En fait, moi je pense que malgré la présence de toutes ces forces, que ce soit Barkhane, les forces du G5 Sahel, MINUSMA, il n'y a réellement pas de changement. Quoi. Il n'y a pas de changement. Ils sont là, ils ne travaillent pas avec les FAMA en fait. Ce n'est pas organisé. Donc je pense que leur présence réelle, on se pose des questions. Quoi.
Vous n'êtes pas convaincu par la présence de toutes ces forces armées étrangères. Monsieur le ministre, ça a été évoqué par les deux dames hein, qui sont au premier rang, les deux étudiantes. L'absence de coopération, de collaboration entre les forces étrangères et les forces armées maliennes. Vous reconnaissez que effectivement cette collaboration elle n'est pas optimale, elle n'est pas à 100%.
La collaboration, comme je l'ai dit, s'est améliorée et s'améliore dans la mesure où les zones géographiques de retenir ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, depuis le 13 janvier, il y a une coordination réelle entre l'ensemble de ces forces-là et la redéfinition du type d'intervention des uns et des autres et la réqualification des mandats des uns et des autres.
Vous parlez du mois de janvier, donc c'est à partir du sommet de Pau que les choses ont changé.
À partir du sommet de Pau, on a réparti clairement et le commandement est à trois pieds. Mali, oui. Barkhane, MINUSMA et G5 Sahel. Du Tchad à Gao et à Bamako. Donc il y a une coordination d'ensemble aujourd'hui et qui est en train de donner des résultats probants.
Choguel Maïga.
Vous savez, j'avais dit tantôt qu'une politique se juge aux résultats. Pendant de 2013 à 2020, ça fait 7 ans, on n'a pas vu de résultats. La situation n'a fait qu'empirer. Maintenant, à partir de 2020, on nous a dit qu'il y a une nouvelle politique de coordination. Attendons quelques mois et quelques semaines, on va juger.
Mais vous avez été convaincu, vous, par le sommet de Pau ou pas?
Vous savez, moi, les grands sommets sont toujours à caractère politique. Moi, de mon point de vue, le sommet de Pau, c'était pour que le président français ait un mandat clair pour avoir un support juridique, politique et diplomatique à la présence française dans nos pays. C'est parce qu'en vérité, je vous avais dit que Serval s'est mis en Barkhane à l'insu des populations.
Oui, vous auriez souhaité...
Et donc, avec les manifestations dans nos pays, avec les soldats français qui étaient décédés, avec la situation qui pourrait s'empirer éventuellement, je pense que le président français voudrait se prémunir d'un certain nombre de garanties, au moins juridiques et politiques.
Et 600 hommes supplémentaires, 600 soldats supplémentaires, quand on connaît la superficie du Sahel, est-ce que vous vous dites que la France aurait peut-être pu faire un effort supplémentaire?
De mon point de vue, la sécurité de nos pays, il ne faut pas se tromper. Aussi longtemps que les forces nationales ne seront pas à la hauteur, les forces étrangères ne ramèneront pas la paix. Maintenant, attendons, comme je dis, quelques mois pour voir les résultats. Juger cette politique tout de suite.
Monsieur le ministre, et on rend l'antenne à Paris pour le journal.
Oui, je pense que quand on dit à l'insu, mais le 13 janvier, Serval était à l'insu de tout le monde. Vous n'aviez pas la lettre entre vous-même, Monsieur Choguel.
La lettre, on l'a, tout le monde.
Non, j'ai dit aucun Malien... Le 12 janvier à minuit, le 13 janvier à minuit, j'étais en réunion politique. Personne n'avait cette lettre.
Mais on l'a su après. Mais oui,
attendez.
Donc, ne polémiquons pas sur ça.
Oui.
Il y a une demande malienne aujourd'hui. Il y a une demande sahélienne aujourd'hui qui a trouvé une réponse. Et on est en train de construire cette réponse dans la durée.
Allez, on marque une pause. On retrouve la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient évidemment avec les invités et le public ici à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako. À tout de suite.
Bamako, 98.5 FM. Ségou, 93.6 FM.